Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Massimo.
En ce 16 au juin, journée de l'enfant africain, nous parlerons de la situation de plus de 12 000 enfants déplacés à Bounia qui peinent à étudier, des difficultés de se déplacer par le conflit Tekeaka au Kwilo dont l'alimentation et l'hygiène posent problème et aussi et d'environ 32 000 enfants encore utilisés par des groupes armés dans plusieurs provinces de l'est du pays. Le Centre national de transfusion sanguine a rendu hommage hier à Kinshasa à ses héros à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang qui intervient le 14 juin. Dirigeants et bénéficiaires ont fait de cet événement une ode d'hommage à ces personnes qui aident à prolonger la vie de leurs semblables. Dialogue entre Congolais a fait hier la lecture de la manifestation de l'opposition dispersée vendredi à Kinshasa et des incidents qui l'ont émaillé. Les invités de Guy Mathieu ont aussi commenté les différentes réactions qui s'en sont suivies, tant ici au pays qu'à l'international. Nous vous proposons quelques-unes de leurs interventions dans ce journal. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal qui part de l'Ituri, province où ce 16 juin, journée de l'enfant africain, les milliers d'enfants déplacés sont privés de leurs droits fondamentaux. Ils sont près de 12 000 vivant dans des sites déplacés de Kigonze et de l'ISP à Bounia qui n'ont plus accès à une éducation régulière. C'est depuis leur déplacement en 2017 provoqué par des violences armées. Ces enfants font également face à de nombreuses difficultés, c'est notamment l'accès aux soins de santé et à l'alimentation dans un contexte marqué par la réduction de l'aide humanitaire. Ce constat est dressé par les gestionnaires de ces sites déplacés à l'occasion de cette journée qui rappelle le massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud en 1976. Isaac Raymond nous en dit davantage sur la situation de ces enfants déplacés.
Dans les sites déplacés de Kigonze qui accueillent plusieurs milliers de familles, près de 10 000 enfants ne fréquentent plus régulièrement l'école depuis leur déplacement. Au site de l'ISP, environ 2 000 autres enfants sont également privés d'éducation. Malgré la gratuité de l'enseignement dans les écoles publiques, les capacités d'accueil restent insuffisantes pour absorber tous les enfants déplacés. À Kigonze, la seule école fonctionnelle du site, conçue pour accueillir 500 élèves, en reçoit près du double. Les cours y sont assurés grâce à l'engagement d'enseignants déplacés qui travaillent bénévolement. À ces difficultés s'ajoute le manque de nourriture. Selon les responsables des sites, la dernière distribution alimentaire remonte à 2021. Pour le président du site de l'ISP, cette situation compromet sérieusement l'avenir de nombreux enfants dont certains passent désormais leur journée dans les rues de Bounia. Maki Mugeni.
Malgré la gratuité de l'enseignement, il n'y a pas suffisamment de place dans les écoles pour accueillir tous nos enfants. C'est un grand regret pour nous car beaucoup d'entre eux passent leur journée dans les rues, à mendier, d'autres ne rentrent même plus à la maison.
La situation est similaire dans plusieurs autres sites déplacés à travers la province. Pour de nombreuses familles déplacées, les retours de la paix dans leur village d'origine demeurent la seule perspective pour permettre à leurs enfants de retrouver une vie normale. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Après les enfants déplacés, parlons à présent des enfants utilisés par des groupes armés. Au Nord Kivu, au moins 125 retirés de groupes armés ont été réinsérés dans leur famille au cours du premier semestre de cette année dans les territoires de Walikale. Malgré ces avancées, plus de 32 000 autres enfants seraient encore utilisés par des groupes armés dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Tanganyika, du Nord et du Sud Kivu. Il s'agit des statistiques établies par le réseau régional des organisations de la société civile contre le recrutement et l'utilisation des enfants soldats. Et c'est à l'occasion de la journée de l'enfant africain ce 16 juin 2026. Bernard Danyangi pour les détails.
Au Nord Kivu, bien que 125 enfants aient été retirés des groupes armés et réunifiés avec leurs familles, les risques de ré-recrutement demeurent élevés en raison de l'insécurité persistante dans plusieurs localités, explique Raphaël Loumont, point focal provincial du réseau.
Le défi reste énorme par rapport à la réinsertion économique et sociale de ces enfants, puisque certains ont été réinsérés dans des zones où il y a encore les tensions. Et l'engagement des leaders locaux dans ces entités reste nécessaire pour prévenir les cercles vicieux et sortir et rentrer dans les groupes armés.
Il souligne également que les données de 2025, actuellement en cours d'actualisation, révèlent une situation toujours préoccupante dans l'est du pays.
Dans les 5 provinces de l'Est, plus de 32 314 enfants sont utilisés par environ 293 groupes armés. Pour la province du Nord Kivu, plus de 10 000 enfants, parmi lesquels 1457 filles et 8909 enfants garçons qui sont dans les groupes armés.
À l'occasion de la journée de l'enfant africain, plusieurs activités de sensibilisation sont prévues afin de promouvoir la protection des enfants et prévenir leur recrutement dans les groupes armés.
Et au Kwilu, les enfants déplacés par les conflits TKK vivent aussi dans des conditions difficiles, hébergés dans différents sites et manquent de soins et d'hygiène. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain célébrée ce 16 juin, la division provinciale du genre, famille et enfants lance un plaidoyer. Elle demande à l'Assemblée provinciale et au gouvernement d'améliorer les conditions de vie de ces enfants. Ces informations de Jean-Claude Tangamou de la radio communautaire Bantundu Développement sont rendues ici par Benjamin Moudoumbi.
Ces référents thèmes retenus pour l'édition 2026, garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous les enfants d'Afrique, la division provinciale du genre famille et enfants du Kwilu souligne que ces enfants évoluent dans un environnement peu favorable à leur protection, à leur éducation et à leur épanouissement. Sophie Matari, chef du bureau chargé de la protection de l'enfant.
Dans ce plaidoyer, nous avons demandé à ce qu'on puisse trouver un assainissement favorable pour ces enfants, pour ceux nous avons demandé qu'on construise des latrines modernes dans des sites. Ils boivent de l'eau de puits, l'eau qui n'est pas traitée.
Les structures qui accompagnent les déplacés, elles aussi, affirment manquer des moyens pour poursuivre leurs actions d'assistance. De son côté, Damien Bungu, coordonnateur de l'ONG Communauté des Amis de la Nature et de la Culture, Kounaku, appelle les partenaires à se mobiliser pour soutenir ces enfants déplacés et les organisations qui les encadrent.
Notre plaidoyer va tout droit vers ceux qui peuvent nous écouter, à comprendre réellement que ces enfants-là, aujourd'hui, s'ils ne sont pas accompagnés, ils vont se livrer à la merci de la nature.
Les personnes de bonne volonté sont aussi invitées à apporter leur aide à ces enfants vulnérables.
Autre nouvelle, après 5 années passées à la tête de l'Ituri sous état de siège, le général Johnny Luboya Kachama a officiellement passé le relais au général Gabi Mulumba Kasongo. Lors de la cérémonie de remise et reprise organisée hier à Bunia, le gouverneur sortant est revenu sur les défis rencontrés durant son mandat, tandis que son successeur a affiché sa volonté de poursuivre les efforts en faveur de la paix et de la stabilité de la province. L'essentiel dans ce récit de Jean-Claude Loukidile.
Une page se tourne à la tête de la province de l'Ituri. Après 5 années de gouvernance militaire sous état de siège, le général Johnny Luboya Nkashama passe le témoin au général Gabi Mulumba Kasongo. Le général Johnny Luboya Nkashama quitte ses fonctions en soulignant les défis auxquels l'Ituri a été confronté, notamment l'insécurité persistante et les crises sanitaires comme l'épidémie d'Ebola. Il affirme avoir œuvré avec ses équipes pour la stabilisation de la province et souhaite plein succès à son successeur, le général Gabi Mulumba Kasongo a salué le travail accompli par son prédécesseur. Il a assuré vouloir capitaliser sur les acquis existants afin de poursuivre les efforts de restauration de la paix, de consolidation de l'autorité de l'État et de développement de la province. Au-delà du changement à la tête de l'exécutif provincial, les deux officiers ont délivré un message commun, poursuivre les efforts engagés pour répondre aux attentes des populations en matière de paix, de sécurité et de développement durable. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Le président angolais João Lourenço a reçu hier lundi en Angola James Swan, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO. Au menu, selon la présidence angolaise, la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC, avec la poursuite des hostilités entre les parties en conflit, ainsi que le statu quo sur le volet diplomatique, notamment avec les processus de Washington et de Doha. Le chef de la MONUSCO a à cette occasion réaffirmé l'engagement de la mission à soutenir la mise en œuvre et la vérification des accords de cessez-le-feu. James Swan a aussi saluer les efforts déployés par l'Angola depuis plusieurs années en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en République démocratique du Congo. Le Sénat a adopté hier lundi à l'unanimité de 89 sénateurs présents la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC. Ce vote est intervenu lors de la plénière marquant la clôture de la session ordinaire de mars au Parlement. Porté par les députés Paul Gaspard Ngondankoy, le texte a toutefois été adopté dans une version différente de celle approuvée précédemment par l'Assemblée nationale. La principale modification concerne la composition de l'Assemblée constituante, instance appelée à examiner en éventuel projet de réforme constitutionnelle. Le Sénat exclut les conseillers communaux de cette instance, contrairement à la Chambre basse. Cette divergence nécessite désormais la mise en place d'une commission mixte paritaire chargée d'harmoniser le texte avant sa transmission au président de la République pour promulgation. La réforme continue par ailleurs de susciter des tensions politiques. Plusieurs partis de l'opposition réunis au sein de la coalition Article 64 dénoncent un processus qui considère comme une voie vers une révision constitutionnelle susceptible, selon eux, d'ouvrir la voie à un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. À Kinshasa, le Centre national de transfusion sanguine a rendu hommage hier lundi à ses héros du quotidien à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs du sang, célébrée le 14 juin. Une journée d'amour pour les autres, mais aussi d'appel à la solidarité, comme le dit Daniel Awa dans ce reportage.
C'est l'ambiance qui a régné au Centre national des transfusions sanguines de Bandalungwa. L'objectif de cette journée, dire merci à ceux qui tendent les bras pour sauver des vies. Un geste indispensable, comme le rappelle la directrice nationale du Centre national des transfusions sanguines.
Nous sommes réunis pour célébrer celles ou ceux qui en sont le pourvoyeur exclusif. La communauté sanitaire internationale nous invite cette année à célébrer cette journée mondiale sur le thème « Tous unis pour les dons ». Je tiens à adresser mes hommages les plus différents aux donneurs bénévoles de sang au nom de millions de patients qui ont survécu grâce à vos dons de sang. Je vous dis merci.
Guylain Makanda est l'un de ses héros.
Ça fait déjà plus de 19 ans que je suis donneur de sang bénévolant. Je totalise au moins 70 dons. Depuis que j'ai commencé à donner le sang, ma santé est garantie. Je ne tombe pas malade souvent.
Junior Litofe Kalonda, bénéficiaire de la transfusion sanguine, témoigne.
Un jour, j'étais vers 4 grammes. Je suis drépanocyte. C'était difficile de me sauver. Grâce au donneur de sang, j'étais sauvé. À partir de là, j'ai compris que le sang est très important.
Cette célébration forte en symbole rappelle une réalité cruciale. Donner son sang, c'est offrir la vie.
Merci Daniela Awa. La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la drépanocytose, l'une des maladies génétiques les plus répandues au pays. L'Assemblée nationale a adopté vendredi la proposition de loi initiée par le député national Antoine Tabala, élu de la Tchango à Kinshasa. Le texte vise à renforcer la prévention, le dépistage et la prise en charge des personnes atteintes. Il prévoit notamment la gratuité du dépistage ainsi que la création des structures spécialisées à travers le pays. Autre précision avec Grace Amzatine, notre permanent au Parlement.
La lutte contre la drépanocytose pourrait bientôt disposer d'un cadre légal spécifique en RDC. Adoptée par l'Assemblée nationale, la proposition de loi initiée par le député Antoine Tabala vise à mieux prévenir, dépister et prendre en charge cette maladie génétique qui touche des millions de Congolais. Au cœur de cette proposition de loi figure la gratuité du dépistage dès la naissance et jusqu'à l'âge de 18 ans. La loi prévoit également le renforcement de la prévention à travers les campagnes de sensibilisation ainsi que les dépistages prénuptials obligatoires. Le texte entend aussi améliorer l'accès aux soins grâce à la création des centres spécialisés et au développement d'infrastructures adaptées dans les différentes provinces du pays. Autre objectif, lutter contre la stigmatisation dont sont souvent victimes les personnes atteintes de drépanocytose. La proposition de loi prévoit des mesures de protection dans les milieux scolaires, professionnels et sociaux, ainsi que des sanctions contre toute forme de discrimination. Selon les chiffres avancés lors des débats parlementaires, la RDC figure parmi les pays les plus touchés au monde par la drépanocytose. Le texte est désormais transmis au Sénat pour une seconde lecture avant une éventuelle promulgation.
Avant de quitter le secteur de la santé, sachez que le personnel soignant de la province du Haut-Touélé observe depuis hier lundi 3 journées de protestation dites « hôpitaux en deuil ». Durant cette période, les activités sont suspendues sur l'ensemble de la province, à l'exception d'un service minimum qui reste maintenu. Ce mouvement de colère fait suite à l'assassinat de l'infirmier titulaire de l'hôpital secondaire de Mumbere. Il a été abattu samedi dernier par un militaire des FARDC. Nous faisons le point avec Jacques Mkongole.
Le drame s'est produit au sein même de l'établissement sanitaire, alors que le militaire tentait d'arrêter un patient sous traitement. C'est en voulant s'interposer et s'enquérir de la situation que le professionnel de santé a été mortellement touché. Ce lundi, les professionnels de la santé sont descendus dans la rue pour déposer un mémorandum auprès de l'autorité provinciale. Bien qu'il n'ait pas été reçu officiellement, ils ont procédé à la lecture publique de leur document contenant plusieurs recommandations fermes pour dénoncer l'insécurité grandissante qui cible les corps médical. On écoute à ces propos le représentant de l'intersyndicale de la santé, le docteur Alexis Balikito.
L'établissement de toute la vérité sur le fait et la traduction des auteurs devant la justice. La mise en place de mesures urgentes et effectives de sécurisation des structures sanitaires et de protection du personnel de santé. Nous exigeons le respect des codes de CICR qui stipulent l'absence d'armes à feu au sein des établissements de soins de santé. La prise en charge par le gouvernement provincial de la veuve et des orphelins de victimes.
Cet arrêt de travail de 3 jours est bien d'être un cas isolé. Il illustre de manière flagrante la recrudescence de l'insécurité et des violences ciblant le personnel soignant dans la province du Haut-Touélé. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les dirigeants mondiaux ont commencé à se rassembler depuis hier à Evian en France dans le cadre du sommet du G7. Outre l'Iran, l'autre sujet majeur sera la guerre en Ukraine qui a largement perdu de son importance dans la liste des priorités de la Maison Blanche. Dimanche, Donald Trump s'est entretenu avec les présidents Poutine et Zelensky.
L'invité.
Dialogue entre Congolais a fait hier la lecture de la manifestation de l'opposition dispersée vendredi à Kinshasa et des incidents qui l'ont émaillé. Les invités ont aussi commenté les différentes réactions qui s'en sont suivies, tant ici au pays qu'à l'international. Voici quelques-unes de leurs interventions au micro de Guimaté.
Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous êtes député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, les partis membres de la coalition Lamuka, vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. D'abord, à ces jours, quel est le bilan de la répression de ce vendredi lors des sit-ins que vous avez organisés, vous de l'opposition?
Voici les bilans provisoires, rien que pour les SID. D'abord, il y a eu deux corps qui ont été emportés, l'un par force de progrès qui l'aurait mis à la police devant le boulevard Triomphal, c'est le corps de M. Kabeya Ngadiadia. Ensuite, sur l'avenue de l'enseignement, un militant qui a sauté les murs du siège de l'ECID a reçu une balle au tronc, une balle tirée par un élément de la garde républicaine. Il est tombé et la garde républicaine a emporté son corps. Raison pour laquelle l'ECID a parlé de deux morts.
Parmi les morts, la personne qui a été identifiée, c'est Kabeya Ngadiadia.
Kabeya Ngadiadia.
L'autre, vous ne connaissez pas son nom.
Le nom n'est pas encore connu.
Mais vous êtes certain qu'il est mort.
Nous avons des témoignages. Il est tombé. Il y a un camarade militant de l'ECID qui l'a tiré pour le sauver pendant qu'il respirait encore. Les éléments de la garde républicaine ont avancé vers lui. Le camarade a abandonné l'autre qui était Giza, et à son retour, il a demandé à ceux qui étaient dans l'entourage qui lui ont donné le témoignage que les éléments de la garde républicaine l'ont emporté. Alors, nous avons également 13 personnes qui manquent à l'appel. À part cela, nous avons 147 blessés graves. Parmi ces 147 blessés graves, Martin Fayoulou est visé à la tête. Delice Sanga, visé au niveau des parties intimes. Kabound de même. Nous voyons un caractère ciblé dont l'objectif est de neutraliser, rendre impotent les dirigeants de la coalition 164 avec objectif de neutraliser la contestation.
Merci Peter Kazadi, vous êtes avocat, vous êtes député national, élu de la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Que répondez-vous à toutes ces accusations de l'opposition?
À ce que j'ai compris, mon frère Kasekwa, il est en train d'accuser les pouvoirs qui auraient envoyé la police et que cette dernière serait aussi accompagnée de ce qu'ils ont identifié comme les forces du progrès de l'IDPS. Ici, je tiens à dire que la police ne travaille pas avec des civils. Mais ce que je sais en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, mais aussi en tant qu'ancien de l'opposition comme eux, il y a deux parties de la police. Il y a la police visible et la police qui se dissimule dans la foule pour essayer d'isoler les meneurs des troupes.
La police qui se dissimule dans la foule, elle est en civil?
Elle est en civil. Si Jean-Marie a fait l'opposition avec nous, il doit le savoir. Et c'est une stratégie qui s'est faite partout au monde.
Les policiers en tenue civile qui avaient des gourdins, des machettes, c'est toujours des policiers?
Mais gourdin, ça fait partie des matériels de la police, non?
Machette, pierre.
Et par contre, j'ai vu parmi les manifestants de l'opposition des gens avec des machettes toutes neuves.
Merci, Christian Moleka. Vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle est votre lecture de cette situation?
Ben, la lecture, c'est que nous sommes en train de prendre un cran de plus. On est passé de l'escalade verbale aux villes mortes et aujourd'hui, le cran, il nous amène vers cette logique de confrontation dont tout le monde redoutait et éventuellement des scénarios de plus en plus violents. À la fois la confrontation dans la rue, à la fois par la mobilisation des services de sécurité et qui nous rappelle les drames de 2015, 2016, 2017. Donc le scénario, il était prévisible et puisque la logique reste celle du rapport de force, on l'a rappelé plus d'une fois ici, et qui dit rapport de force dit confrontation.
L'objectif de ces sit-in, hein, selon l'opposition, était de pousser le Sénat à abandonner l'examen de la proposition de la loi portant organisation du référendum en RDC. Et si le Sénat adoptait ces textes dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, à votre avis, quels seraient les moyens qui resteraient à l'opposition pour poursuivre son action?
Bon, le schéma n'est pas différent de 2016, c'est-à-dire qu'au niveau institutionnel, il n'y a pas match parce que la majorité présidentielle dispose de la marge nécessaire pour qu'au niveau institutionnel, ils puissent faire passer les lois qu'ils souhaitent. Et donc, tout dépendra de la capacité de l'opposition à mobiliser suffisamment la population pour amener un rapport de force qui bougerait la logique institutionnelle. Et donc, tant que la majorité ne se sentirait pas bousculée par une mobilisation populaire, eh bien, ils resteront dans leur logique institutionnelle de continuer à avancer.
Vous pouvez continuer à suivre, vous pouvez suivre l'intégralité de ce numéro de dialogue entre Congolais d'hier lundi sur www.radiokapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Fin de ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mise en onde par Pierre Diessinois. Merci de votre attention. Excellente journée.